Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va? Ouais, même après, avec cette heure en moins, vous êtes là, on se réjouit. Moi, je me réjouis beaucoup d'être avec vous ce matin, de pouvoir parler de la Bible, de la parole de Dieu. Ce matin, ma prédication, j'aime donner des titres à ma prédication, ça donne un objectif. Ce matin, je vais vous parler d'une motivation renouvelée. J'aime la Bible parce que dans la Bible, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs textes qui sont inspirants, qui sont défiants. Et ce matin, je parle de motivation parce qu'on voit des personnes dans la Bible qui vont à contresens, qui sont motivées par quelque chose d'autre que ce que le monde nous présente, ce que les circonstances nous présentent. Et ça m'interpelle. On va prendre l'exemple ce matin de Paul. C'est un apôtre, c'est un envoyé de Dieu qui implante des églises dans le monde et qui, malgré les circonstances, malgré ce qu'il va vivre, est interpellé, va aller au bout et va tout donner pour Christ. Mais avant qu'on rentre dans le texte que j'ai choisi de Philippiens, que j'aimerais partager avec vous, je vais vous faire un petit exercice. On commence fort ce matin. C'est un culte ADN, c'est parti. Petit exercice. Alors, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, sortez vos natels, vos feuilles, deux têtes, mais j'aimerais que vous puissiez réfléchir à votre CV. On va passer un entretien d'embauche ce matin. Non, c'est pas vrai. Réfléchissez à votre CV. C'est un petit exercice, ça nous sera utile plus tard. Qu'est-ce qui est votre parcours scolaire, professionnel, vos aptitudes? Quand vous faites un CV, quand vous pensez à un CV, généralement, il y a trois critères normalement qui sont sur un CV. C'est le parcours académique, le parcours professionnel et plusieurs aptitudes. Voilà. Et aussi, aujourd'hui, de plus en plus, les relations, les contacts, je connais telle et telle personne, enfin voilà, un CV, on présente ça. Je vous laisse quelques minutes, réfléchissez-y, peut-être qu'il y en a des qui ont déjà un CV tout prêt, peut-être qu'il y en a des, vous n'avez pas encore fait ça, vous serez peut-être amené à le faire, sûrement. Hein. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes, réfléchissez à ce CV et ça nous sera vraiment utile pour après. Ce silence est digne d'un silence d'examen. Hein. Vous êtes conscient. Il n'y a pas de. Je vous laisse réfléchir. Vous avez peut-être quelques éléments, peut-être que vous avez pris des notes. Si vous avez commencé à faire la mise en page de votre CV, ce n'était pas la peine. Hein. On s'arrête avant, c'est juste deux, trois questions. Ça nous sera utile après. Je vais vous lire le texte de ce matin qui se trouve dans Philippiens 3, les versets 4 à 11. C'est Paul qui parle à l'église de Philippe, et quand il parle, merci, il dit, verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, j'ai mon écran qui saute. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je m'arrête au verset 9. Je vous mets un peu le contexte de cette lettre aux Philippiens. On va parler, donc l'auteur, comme je l'ai dit, c'est Paul. C'est celui qui a fondé l'Église. À partir de ce deuxième voyage missionnaire, il fait plusieurs voyages missionnaires où il va implanter des églises. Deuxième voyage missionnaire, il implante l'église dans la région de Philippe et il va leur écrire des lettres. Cette lettre, elle est particulière parce que chaque lettre dans le Nouveau Testament, Paul, en fait, Il écrive avec un objectif très précis. L'Église vit quelque chose de difficile, l'Église a des questions, il répond à la question, il répond à la difficulté. Là, cette lettre-là, il ne répond pas à une difficulté, il ne répond pas à une question de l'Église, il va exprimer une joie à l'Église. C'est pour ça qu'on peut appeler ça la lettre de la joie. Si vous avez, ça fait un certain temps que vous êtes à l'Église, vous avez peut-être entendu ça. Philippiens, la lettre de la joie. Et pour cause, hein, l'élément de la joie, c'est 4 chapitres Philippiens, il y a plus de 60 répétitions où il parle de la joie. Enfin, c'est sûr, hein, c'est... Paul est dans la joie. Et pourtant, Paul est dans la joie. Quand Paul écrit ça, Paul est en prison. Et ce n'est pas la prison d'aujourd'hui. Il est en prison, il ne sait pas ce qui va arriver. Au début du chapitre, au début de la lettre des Philippiens, il dit « Peut-être que je vais mourir, je ne sais pas. » Il n'a aucune idée de son futur. Et pourtant, dans ces circonstances-là, il est dans la joie. Et si on résume le livre, voilà, c'est avec mes mots d'aujourd'hui, ça pourrait donner ça. C'est Paul qui écrit à l'église de Philippe et il dit « Les amis, tout va bien pour moi. Je suis dans la joie. Alors, soyez dans la joie. » C'est étonnant. C'est étonnant. Et face à ça, on peut que se dire que Paul a une motivation qui est différente que je pourrais avoir dans ces circonstances. Et on peut voir ça. Sa motivation est différente. Je regarde juste ce qui arrive, oui. Je vais revenir ici. Sa motivation est différente. Elle est animé, non pas parce qu'il a acquis, non pas parce qu'il a fait dans sa vie. Au contraire, c'est parce que, il le dit, c'est parce que Christ est en lui et il voit en Christ un gain. Et en fait, quand il parle aux gens de Philippe, il parle à des amis. C'est des gens qui l'ont soutenu dans le ministère, c'est des gens qui ont été là pour lui. Il ne parle pas en tant qu'apôtre ou fondateur de l'Église à des gens qu'il doit reprendre, mais vraiment d'amis à amis. Donc ça change vraiment la notion. Et il va parler avec eux, et à un moment donné, l'église de Philippe, elle a un petit souci, c'est que dans l'église, il y a des gens qui commencent à se dire « Oui, mais moi, je vaux plus que toi. Moi, j'ai plus le droit d'être chrétien que toi. » Et en fait, il entend parler de ça. Et Paul va dire, et va écrire ces versets-là, il va dire « Moi aussi, j'aurais pu mettre ma confiance dans ma chair. » Et Paul va vraiment parler de lui. Et quand on parle de Paul, peut-être que vous le connaissez, vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter. C'est, en langage aujourd'hui jeune, si je prends Star Wars, c'est Maître Yoda. Voilà, c'est Maître Yoda, c'est le gars, il est au top niveau, il n'y a personne, c'est Paul. Paul explique qu'il est né dans le bon peuple, dans la bonne tribu, Il est né d'Hébreux, ses ancêtres étaient Hébreux. S'il fait sa généalogie, son ancêtre, c'est Abraham. Il a été circoncis le 8e jour, comme la Bible le demande, comme Jésus le demande, comme Dieu le demande. Pardon. Pas comme d'autres peuples où c'est un jour plus tard. Non, le 8e jour, pile au bon moment. Il a grandi, et lorsqu'il grandit, il choisit de suivre Dieu et choisit un courant religieux des pharisiens, les pharisiens, c'est un courant religieux d'Israël, ils sont stricts, c'est les plus stricts. Il est là, il est dans ce courant-là, il est pharisien, il va même jusqu'à dire qu'il a persécuté l'Église, des gens un peu bizarres qui annoncent un Jésus ressuscité. Il est allé à fond, il a tout donné, il est irréprochable au niveau de la loi. Irréprochable. Hein, les pharisiens mettent 650 lois en plus. Et lui, il se dit ça, finger in the nose. Facile. Moi, je suis irréprochable. Ça, c'est moi. Voilà. Et on pourrait dire, ça, c'est le CV de Paul. C'est ça qui se présente. Il dit, ça, c'est moi. Mais lorsqu'on arrive au verset 7, il dit, mais toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, c'est-à-dire, c'était dans le bonus, c'est ce qui faisait ma fierté, c'est ce qui faisait que j'étais confiant, c'est ce qui faisait que je me disais, nah, je suis quand même une bonne personne. Il les a regardés comme une perte à cause de Christ. Et là, en fait, ce regarder, dans le grec, c'est au passé. En fait, on peut supposer qu'il se projette lors de sa conversion à Damas. Donc, Paul persécute l'Église, il arrive dans une ville à Damas. Jésus se présente à lui et Jésus dit, « Paul, pourquoi tu me persécutes ?» Et là, conversion foudroyante, Enfin, il perd la vue. Enfin, voilà, une grande histoire. Ça se trouve dans les Actes, hein, si vous avez envie de lire cette histoire-là. Et il change totalement de vie. Et il dit, mais à cause de Christ, à cause de cette vérité, tout ce qui était avant, c'est annulé. Ça ne vaut plus rien. Et on dit, amen. Parce que du coup, persécuter l'Église, ce n'était pas bon, c'est une perte. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, tout ce qui était une fierté pour moi, ça ne l'est plus. Et verset 8, il dit, je regarde toutes ces choses comme une perte, ce n'est pas une répétition. En fait, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, il ne se répète pas, il dit, c'est dans mon passé, donc c'était il y a 30 ans, Paul a 30 ans de conversion à ce moment-là, il se dit, il y a 30 ans, j'ai tout vu comme une perte, et maintenant, dans le présent, ces 30 ans de vie chrétienne, je vois toujours tout comme une perte. Il n'y a rien qui fait ma fierté à part une seule chose, la connaissance de Jésus-Christ. Et une connaissance de Jésus-Christ à la juif, c'est-à-dire que ce n'est pas une doctrine, des règles comme ça, c'est connaître relationnellement qui est Jésus. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et il dit, j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardés comme de la boue. Prenez votre CV, vous l'avez en tête. Moi, j'ai fait plein de choses dans mon CV, j'ai des formations, j'ai de l'expérience. Donc, on dit, hein, il y a trois choses. Le parcours académique, l'expérience professionnelle, il y a une moyenne entre 20 et 30 ans. On dit qu'un jeune aujourd'hui de 20-30 ans a en tout cas 7 expériences professionnelles différentes. C'est une moyenne. Ça, toutes les aptitudes, tout ce qu'il met en avant, toutes mes relations, tout ça, Paul dit c'est de la boue. Dans le grec, c'est des fois traduit comme des ordures ménagères, mais dans le grec, le mot va jusqu'à dire, et il est très vulgaire, Paul, parce que c'est le seul endroit dans la Bible où c'est dit comme ça, il considère ça comme des excréments d'animaux. C'est vraiment la définition propre. Donc il considère tout ça comme de la haine. C'est des excréments d'animaux pour lui. Il n'en veut plus, il ne s'intéresse plus à ça, ça ne vaut plus rien. Parce que ce qui vaut à ses yeux, c'est l'excellence de Jésus-Christ. Et tout ça, toute cette lettre, toute cette nouvelle motivation est animée par qui est Jésus. Et dans la lettre aux Philippiens, on a ce qu'on appelle l'hymne à Christ. Et en fait, toute la lettre est construite autour de cet hymne. Je vais vous le lire. Hein. L'hymne à Christ où Paul va parler de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Et en fait, c'est ça qui l'anime. Parce que quand il cite ça, en fait, il se dit, mais je vois cet hymne, je vois qui est Christ, et ça me donne envie de vivre comme Jésus. C'est ça qui le motive à chercher juste Christ. Je vous lis. Philippiens, donc c'est Philippiens 2, les versets 8 à 11. Pardon, Alors, lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Cet hymne, c'est un hymne à Christ, et cet hymne habite Paul. Il se dit « Mais je connais Christ, Christ a fait ça, c'est l'œuvre de Jésus, et si je crois en Jésus, je me suis converti, je veux vivre la même chose que Jésus. » Et là, en fait, c'est un des éléments qu'on a et que Paul nous donne pour voir pourquoi il est toujours dans la joie, même lorsque ses circonstances sont très compliquées. En fait, il se dit, mais je veux vivre comme Jésus. Donc, il nous dit, voilà les exemples à suivre. Voilà l'exemple à suivre. Ce que je trouve intéressant, c'est que ma motivation n'est pas fondée sur des valeurs, sur ma fierté, sur ce que je pourrais croire de moi, elle est basée sur des exemples, elle est basée sur un faire, elle est basée sur qu'est-ce que Jésus a fait? Je veux faire la même chose. Et du coup, il nous cite cet hymne en disant, Jésus a fait ça, faites de même. Ça va? Vous vous dites que c'est facile? Se dépouiller, donner sa vie, mourir à la croix, c'est un gros programme, hein, les amis. Et Paul, il dit, voilà ce qu'il faut faire, c'est suivre Jésus. Et je pense qu'il est bien conscient qu'aux Philippiens, comme à nous aujourd'hui, on sait, oui, bah, Jésus, c'était Jésus, quoi. Donner, mourir mourir pour ses ennemis, je veux bien suivre Jésus, mais mourir pour ses ennemis, bah, pas tout de suite, hein, ou à éviter, ça serait sympa. Donc, Paul dit, ok, Jésus est trop haut, peut-être, mais regardez, il y a des gens qui ont suivi Jésus et qui sont motivés par Jésus, il n'y a pas que moi. Et il donne l'exemple de Timothée. Donc, c'est Timothée, c'est verset, chapitre 2, les versets 19 à 24, je ne vais pas vous le lire, mais en gros, il dit, Timothée, Paul considère Timothée comme un exemple. Et il dit, il est comme Christ. Pourquoi il est comme Christ? Parce qu'il prend soin des gens. Parce que c'est un apôtre, c'est un pasteur qui va aller prendre soin des gens, prendre soin du plus faible. Et il dit, ça, c'est être comme Christ. Ça, c'est être motivé comme Jésus. C'est faire ce que Jésus a fait dans l'hymne. Et il nous donne cet exemple de Timothée. Il nous donne un autre exemple. Est-ce que vous connaissez Épaphrodite? Est-ce que vous savez qui c'est? Ce n'est pas une déesse grecque. Souvent, on a l'impression, hein, quand on entend Épaphrodite, que c'est une déesse grecque. Non, pas du tout. Épaphrodite, c'est le deuxième exemple que Paul nous donne. Et j'aime énormément Épaphrodite, parce que, à main levée, qui connaît Épaphrodite? Qui a déjà entendu parler d'Épaphrodite? Ok. Connaître, on est vrai. Épaphrodite est un pur inconnu. Épaphrodite n'a rien fait sur la scène de devant, il n'a rien fait d'extraordinaire aux yeux des êtres humains. Et quand Paul donne cet exemple-là, il casse ce que des gens ont appelé, ce que moi j'ai pu entendre déjà en train de parler, il casse ce qu'on appelle un star system. C'est-à-dire que pour suivre ou pour servir Dieu, il faut être devant, c'est les stars. On est une star, on a certaines choses à faire, c'est soit la louange, soit la prédication, soit, voilà, il faut être vu. Et Paul casse ce star system en disant, mais Épaphrodite, lui, c'est le gars que j'admire. Paul, c'est le gars que j'admire. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ce qu'il a fait, Épaphrodite, l'église de Philippe a voulu soutenir Paul parce qu'il était en prison. Okay, donc, pas d'argent, pas de nourriture. Si personne prend soin de lui, il meurt. Aucune église va aller servir ou va aller aider Paul. L'église de Philippe, oui. Mais à l'époque, il n'y a pas de Twint. Donc, elle ne va pas juste, je verse un peu d'argent à Paul et c'est parti. Non, Twint n'existe pas. Du coup, l'église de Philippe dit, on a une somme, on a de l'argent, on a quelque chose, il faut que quelqu'un aille délivrer ça à Paul. Et je vous promets, ce n'est pas 3 heures de voyage, hein, c'est des mois de voyage. Et Épaphrodite dit, moi, je veux y aller. Épaphrodite décide de mettre une parenthèse sur sa vie. Épaphrodite décide de mettre sa vie en danger. Épaphrodite ne sait pas s'il va revenir, Épaphrodite ne sait même pas s'il va arriver à destination, parce que c'est des mois de voyage, il y a des brigands, il y a du danger. Quand il arrive, il est malade, à deux doigts de mourir. Dieu l'épargne. Épaphrodite dit, moi je suis prêt à servir ça. Je suis prêt à le servir sans qu'on me voie, sans que j'aie besoin qu'on me dise, bravo, c'est incroyable ce que tu as dit ce matin. Pas besoin. Épaphrodite n'a pas besoin de ça. Il va servir Dieu dans le secret. Et Paul dit, voilà un exemple à suivre. Et il descend le niveau en disant, si Christ est trop haut, regardez ce que Épaphrodite a fait, regardez ce que Timothée a fait, regardez ce que je fais. Et il nous encourage à suivre ces exemples-là. Et lorsqu'on suit ces exemples-là, on trouve un nouveau but à notre vie. Paul a un nouveau but à sa vie, et je trouve très intéressant parce que dans la lettre aux Philippiens, il dit finalement, lorsqu'il n'est même pas sûr de rester en vie, il dit, si je devais mourir, ça serait un gain pour moi. En fait, je serais même plus content de rejoindre Dieu. Ça serait un gain, je serais enfin avec lui. Il dit, mais si je reste ici, c'est pour servir, c'est pour propager l'évangile, pour dire aux gens la bonne nouvelle. Donc que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Il a même dit, je suis tiraillé, je ne sais pas ce que je veux. C'est intéressant. Il donne un nouveau but et il dit, Paul parle, et il dit, chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est-à-dire vivre en Christ, ou que j'ai déjà atteint la perfection en Christ, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisse moi aussi, j'ai été saisi par le Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul a une seule chose en tête, Paul a un seul désir dans toute sa vie, c'est être trouvé en Jésus, c'est vivre une relation à Christ. Et ça, ça change toute la vie de Paul. Ça change tous les paradigmes de Paul. Quand Paul regarde sa vie, il le regarde au prisme de qui est Jésus. Il regarde aux souffrances de Jésus. Il regarde à ce que Jésus a fait. Et finalement, il se dit, mais face à Christ, plus rien n'a d'importance. Et nous, aujourd'hui, Christ nous confronte à son excellence, à sa personne. Et peut-être qu'on pourrait se dire, comme Paul, mais moi, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis allé à l'église tous les dimanches. J'ai suivi l'école du dimanche, ou l'univers enfant, si vous êtes à la frate. J'ai suivi l'école du dimanche, je me suis rappelé de tous mes versets par cœur. Je suis quelqu'un de bien, je viens à l'église tous les dimanches, même pendant les vacances. J'aime les enfants du pasteur. Non. Je suis quelqu'un de bien. Voilà, je pose ma confiance en moi, donc du coup j'ai le droit de dire des choses, j'ai le droit de faire des choses. J'ai le droit de donner mon avis, parce que je m'appuie sur ça. Je suis quand même et puis tu n'as pas vu l'autre, hein. Moi je l'ai vu, il n'était pas là les derniers dimanches. Donc j'ai plus de mérite que lui. Paul dit, il est en train de mettre ça en avant, non. Peu importe notre parcours, parce que face à Jésus, face à la relation à Jésus, tout ça est considéré comme des excréments, est considéré comme rien. Parce que tout ce qui compte pour Paul à ce moment-là, c'est Christ. Et il va courir toute sa vie, il va prendre cette notion de courir, pour remporter le prix. Et je l'ai vu cette semaine, puisque j'étais en formation avec Guy Gentilson pour les jeunes pasteurs. C'est 2 Timothée, à la fin de 2 Timothée, moi ça m'a fait énormément de bien de lire que Paul dit « J'ai terminé la course, j'ai remporté le bon combat. » Il dit « Maintenant j'attends simplement que je sois repris vers mon Dieu. » Et toute une vie à chercher simplement qui est Christ. Donc ma question ce matin, en terminant, c'est après quoi on court? Après quoi court-on ce matin? Quel est l'objectif de nos vies? Est-ce que c'est Christ seul dans lequel je me confie? Est-ce que c'est ça mon objectif de vie? Peut-être que ça l'a été à un moment donné, peut-être que les circonstances de la vie, elles viennent quand même nous chercher. Elles viennent nous dire, oui j'aime Jésus, mais il y a quand même ça à régler. Elles viennent nous changer notre cap de course. Et ce matin, peut-être que vous êtes lancé comme moi à dire « Je veux gagner Christ, je veux vivre une vie avec lui. » Et peut-être qu'en cours de route, il y a des choses, il y a des obstacles. Mais ce matin, que vous ayez commencé cette course ou que vous soyez arrêté dans la course ou que vous soyez en difficulté dans cette course, moi, je vous propose que je puisse prier pour que Jésus, qu'on puisse rester fixé sur Christ et que lui puisse nous amener à être gagnants en lui. Après quoi court-on ce matin? Seigneur Jésus, je te remercie parce que, à cause de ton sacrifice à la croix, grâce à ton sacrifice à la croix, tout ce que je pouvais avoir, je peux le voir comme une perte. Tout ce que j'avais comme avantage, grâce à ton service, grâce à toi, finalement, quelque part, tu es plus haut, plus bon que tout ça. Et c'est en toi que je veux me confier. C'est en toi, Jésus, que je veux, que nous voulons simplement mettre notre confiance ce matin. Et nous voulons faire de toi, Jésus, l'objectif de notre course. Le pourquoi de notre course. Alors, Jésus, que ce soit dans une course où c'est difficile, où on est découragé, où on est déprimé, que tu viennes nous redonner du courage, que tu viennes nous montrer que oui, tu es là avec nous et qu'on court ensemble pour atteindre un objectif, le prix, c'est toi. Alors, encourage-nous ce matin dans notre semaine et dans notre vie. Amen.